6, 5, 4, 3, 2, 1.
Extramuros.
Extramuros.
Radio Évasion sort de ses murs.
Radio Évasion sort de ses murs.
En direct et en public.
En direct et en public.
Extramuros.
Voilà, bienvenue dans Extramuros, l'émission de Radio Évasion qui sort de ses murs. Avec, on a un peu de retard, c'était prévu 10h30, voilà, on commence avec un quart d'heure de retard, c'est pas mal. Mais on va se rattraper, n'est-ce pas Patrice? Bonjour, Patrice pourra co-animer ce plateau en ma compagnie.
Bonjour à toutes et à tous, les joies du direct. Lorsque l'on évoque l'égalité homme-femme, la première chose qui semble venir à l'esprit tourne autour du salaire. À travail égal, salaire égal, comme on dit. C'est l'arbre quelque part qui cache la forêt aussi, car il y a bien des sujets à aborder, des thèmes à défricher et à débattre. Et si le machisme a bien reculé, il reste encore des bastions à faire tomber. En entreprise, par exemple, il n'y a que 3% de PDG femmes en France et dans la vie de tous les jours. En général, il y a encore une vraie marge de progression pour que le « entre guillemets, mesdames, sexe faible » égalise. Un chiffre, un seul, laisse perplexe. Dans l'Hexagone, 40% des femmes ont subi une injustice en raison du sexe. Vers l'égalité réelle, oui, mais à pas compter, on va en parler durant cette 1h30.
En direct, et en public.
Et pour en parler, donc plusieurs invités. Oui, nous avons fait carton plein au niveau des invités. Enfin, on a essayé. On va essayer de donner la parole à tout le monde. Surtout, nous recevrons Gaëlle Vigourou, qui est chargée de la politique interne égalité, qui est conseillère régionale, élue aux dernières élections. Vous avez cofondé en 2007 Entreprendre Féminin. Bonjour.
Bonjour.
Nous recevrons également Docteur Françoise Sanquer. Bonjour. Vous êtes médecin, sexologue et écrivain. Vous avez votre dernier livre paru en 2011, Le sexe est une leçon.
Ah, il y en a eu après, mais bon.
Il y en a eu après.
Bien sûr. Mais j'organise surtout donc un endroit de parole pour échanger entre hommes et femmes,
oui,
sur Brest deux fois par mois.
On va en parler, donc les cafés.
C'est très intéressant.
Les cafés sexo.
Et enfin, les hommes parlent.
Voilà, on en parlera tout à l'heure. C'est bien pour ça qu'on vous a invité, François Sanquer. Nous recevrons, alors ils n'ont pas de micro encore, mais nous recevrons également Arnaud Clugery, qui est le président du club de foot, l'AS d'Irinon. Je recherche du gars, il est en face de moi. Bonjour. Qui est accompagné également de Agnès Guyader, membre du conseil d'administration. Je corrigerai tout à l'heure, du tournoi international de d'Irinon, capitaine de l'équipe de foot R2, c'est trop facile.
Régional
2. Voilà. Et puis, nous recevons également Marion Clément, qui est déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité à la direction départementale de la cohésion sociale du Finistère. Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi la direction départementale de la cohésion sociale du Finistère, Marion Clément?
Donc, c'est une direction des services de l'État qui s'occupe de tout ce qui est justement cohésion sociale. Donc, on va retrouver tout ce qui est hébergement, logement, tout ce qui est personnes vulnérables, protection de ces personnes, vie associative, développement des pratiques sportives. Donc c'est une direction qui est interministérielle, qui concerne plusieurs politiques publiques. Évidemment, l'avantage pour moi d'être dans cette direction, c'est de travailler avec mes collègues. Donc travailler avec mes collègues de l'hébergement-logement, mon collègue du sport, sur le développement des pratiques sportives, etc., etc.
Donc vous êtes à la croisée de plusieurs De plusieurs thèmes.
Complètement. En fait, aujourd'hui, quand on travaille l'égalité, ce qui est important, c'est d'avoir une approche intégrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est incorporer l'objectif d'égalité femmes-hommes dans toutes les politiques publiques. C'est vraiment ça l'objectif, c'est d'irriguer toutes les politiques publiques. Parce qu'on peut pas travailler sur l'égalité professionnelle sans travailler sur les violences, sans travailler sur la question de l'articulation des temps de vie. Tout ça, c'est complètement lié. D'ailleurs, c'est le sens de la loi du 4 août 2014, hein, qui est une loi complètement transversale sur l'égalité femmes-hommes. Donc vraiment, l'objectif, c'est de travailler avec tout le monde, sensibiliser la majorité des personnes pour faire en sorte qu'on incorpore cette question de l'égalité systématiquement.
Donc la DDSS applique des dispositions de l'État, gouvernementales ?
Oui, tout à fait.
Comment vous travaillez justement, comment cette action, comment vous menez votre action et quels sont les grands axes en fait sur lesquels vous travaillez ?
Alors il y a trois axes majeurs. C'est d'abord tout ce qui est lutter contre les violences faites aux femmes, évidemment. C'est ce qui prend beaucoup de temps puisqu'on travaille en partenariat avec les forces de l'ordre, avec la justice, avec les associations, avec les collectivités. On a aussi évidemment le développement de l'égalité professionnelle. Donc ça inclut l'insertion professionnelle des femmes, mais aussi favoriser la mixité femmes-hommes. Et enfin, la diffusion de la culture de l'égalité femmes-hommes. Donc ça, c'est un travail aussi de longue haleine, qui est la lutte contre les stéréotypes de sexe, une sensibilisation du grand public et des professionnels. Donc c'est un travail qui est très en partenariat, à la fois en interne avec les autres services de l'État, et puis avec les autres partenaires, que sont les collectivités et les associations.
Quels sont les autres services de l'État ou alors qui travaillent sur le, quels sont les acteurs en fait de l'égalité homme-femme sur le terrain, enfin en Finistère? Donc on a compris, il y a la DDCS, il y a votre mission. Quels sont les autres acteurs à part les autres acteurs associatifs sur cette thématique?
Donc j'ai cité les forces de l'ordre, hein. Enfin sur les violences en tout cas, évidemment c'est incontournable. On va avoir évidemment l'éducation nationale, mais on va travailler aussi avec l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. En fait, on travaille avec pas mal de partenaires étatiques forcément.
Oui, j'imagine qu'il y a, vous avez des relations, mesdames, entre vous toutes, effectivement, j'irai au quotidien. Entre Dr Sanquer, Gaëlle Vigroux et vous-même.
Moi j'ai une relation surtout avec les gens. J'essaye d'être auprès des gens.
C'est important aussi, les institutions, évidemment, et toutes les personnes qui travaillent au quotidien. En plus des gens, bien entendu.
J'ai une expérience relativement négative à ce sujet-là, je suis désolée.
Bon, bah, c'est corriger ça.
Ah, on est là pour débattre.
Mais c'est la réalité.
Françoise Sanquer, docteur Françoise, dans le micro, parce qu'en fait, c'est une émission.
Je rencontre beaucoup d'hommes et de femmes qui ont eu des problèmes dans leur vie. Quand ils sont allés, et moi ça m'est arrivé aussi à titre personnel à plusieurs reprises, je dois avouer que ça a été le silence.
Alors,
j'ai encore participé récemment, en février dernier, à une émission de télévision qui s'appelle « Mille et une vies » et à propos des violences, eh bien, il a été question, je connais la loi, hein, il a été question, de, encore une fois, de trouver des endroits pour les femmes battues, enfin les femmes, il y a des hommes aussi, mais enfin pour les victimes des violences conjugales, mais la loi de 2006 dit bien, c'est aux violents de partir.
Alors, en effet,
je suis désolée, mais c'est très important. Et ces pauvres femmes se retrouvent dans des situations compliquées, même si on leur trouve un hébergement, etc. Je peux comprendre la situation d'urgence, mais dont une pipe, c'est quand même aux violents d'être condamnés, et rapidement.
Alors, on va essayer d'éclairer un peu tout ça, parce qu'on se rappelle qu'il y a des auditeurs aussi.
Je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité.
Docteur Françoise Sanquer, Marion Clément.
Non, juste dire que, évidemment, on progresse, et on progresse quand même assez vite sur cette question. Par exemple, sur l'éviction du conjoint violent dont vous venez de parler, sur l'éviction, on vient juste de signer une convention sur le nord du département pour permettre l'éviction du conjoint. Donc, évidemment... c'est pas toujours satisfaisant, mais en tout cas, de plus en plus, on a des réponses à apporter, des réponses qui sont les plus satisfaisantes possibles, en sachant qu'on a mis en œuvre dans le département une commission spéciale sur les violences et une commission spéciale qui traite du parcours des femmes victimes pour améliorer justement la prise en charge, la question de l'hébergement, logement et la question de l'éviction. Donc ça, on le travaille, ça progresse, je tiens à le souligner.
Gaëlle Vigouroux. Peut-être. Alors, c'est vrai que ce thème, je voulais qu'on l'aborde un peu après, mais puisqu'on on y est, allons-y quand même, répondons un peu au débat lancé par Dr Sanquer.
Je crois que les violences faites aux femmes, c'est un sujet qui traverse toute la société, que ce soit la sphère familiale, que ce soit la sphère professionnelle, et que des violences, il y en a partout. Et il y en a dans les entreprises, il y en a dans les institutions, il y en a partout. Elles traversent tout. Donc c'est l'affaire de tous et de toutes. Je crois qu'on a quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire encore. Si on regarde, on a un arsenal de lois qui est extrêmement bien fait, extrêmement protecteur. Pour autant, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la loi est appliquée? Pas toujours. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans les représentations, dans les stéréotypes, qui font que les jugements peuvent être biaisés. Après, tout ça, on parle de relations de pouvoir. Si vous avez en effet une situation de violence avec un homme qui a un certain pouvoir, une femme qui a peu de pouvoir, peu de moyens, etc., évidemment, les personnes ne se battent pas forcément à armes égales. Et il y a un chemin de repérage des violences, un chemin de l'accompagnement des personnes qui sont en situation de violence, qui reste évidemment à parfaire. Mais tout le monde s'y met, et c'est ça qui est quand même aussi intéressant. Si par exemple sur le dépôt de plainte, quand une femme va dans un commissariat pour déposer plainte, est-ce qu'elle est toujours bien reçue? Est-ce que les personnes sont formées pour accueillir la parole? Est-ce qu'il y a tout ça, c'est vraiment, ça n'est pas la question du législatif, c'est vraiment la question des usages, c'est la question du réseau qu'il y a autour, et c'est la question de la lisibilité aussi des actions qui soutiennent, des actions qui vont accompagner les femmes. Voilà, il y a quelque chose d'important, c'est que aujourd'hui sur les droits des femmes, je dirais que c'est toujours la quatrième roue du carrosse. C'est toujours les budgets les moins importants dans les collectivités. On passe aujourd'hui, on y a peu de budgets dédiés dans beaucoup de collectivités en France. Vous avez par exemple un élu, d'ailleurs souvent une élue, qui va en missionné pour faire avancer les politiques égalité, mais pour autant, parfois, elle n'a pas de budget, elle n'a pas de personne dans les services. Donc, c'est un petit peu la quatrième roue du carrosse. Et c'est bien pour ça, comme disait Marion, qu'on est en train de gérer l'égalité de façon transversale.
Alors, François Sorquière, excusez-moi.
J'ai besoin de répondre tout de suite.
Alors, rapidement, puisque c'est rapidement. Vrai qu'on a plein de choses à voir et on va en parler vraiment. C'est un sujet très important.
Je suis allée l'année dernière, au mois de mars, c'est-à-dire il y a un an exactement, à une conférence, c'est un séminaire en petit, nous étions 200 médecins, et assistants sociaux et juges, il y avait aussi des juges dans l'assistance, sur les conséquences des violences conjugales sur les enfants. Et organisé par Monsieur Coutenceau, qui est psychiatre, criminologue que beaucoup de gens dont beaucoup de gens ont entendu parler, qui est dans beaucoup de procès retentissants. Et à la fin, donc on a parlé beaucoup de ça. Et à la fin, il y a un monsieur qui est monté sur le podium, qui a dit voilà, je suis juge des affaires familiales, je suis confus, mais nous ne sommes pas formés à cela. Nous ne savons pas entendre. Et il y a un deuxième. Tout le monde a applaudi, tout le monde s'est levé. Il y avait des médecins, des assistants sociaux, des travailleurs familiaux, etc., dans l'assistance. Donc, effectivement, sensibilisés au problème. Et il y a un autre monsieur qui est arrivé juste après, qui était juge des enfants. Il a dit exactement la même chose. Il n'y a pas de formation. C'est la même chose pour les gens, pour la force de police. Il y a des séminaires de formation tous les 36, une fois par an, et il n'y a que ceux qui sont volontaires qui y vont. Voilà ce que j'avais à dire. Et ça, il faudrait changer ça rapidement.
On en est tout à fait d'accord.
Le thème des violences faites aux femmes est d'ailleurs au programme de l'émission ce matin. On a un petit peu devancé le thème. On y reviendra tout à l'heure, mesdames.
Oui, moi je voudrais qu'on revienne un peu sur un peu de hauteur et voir un peu comment ça se passe au niveau du juste donner quelques informations au niveau du Finistère. En termes de mixité, d'égalité professionnelle, on va y revenir à ce sujet puisque il est très important, il est crucial. Je voulais justement, puisque nous étions avec Marion Clément tout à l'heure, je voulais qu'on voit comment ça se passe au niveau du Finistère, au niveau d'égalité, de la mixité au niveau professionnel, au niveau de l'égalité salariale. Quelle est un peu la position générale du Finistère à ce niveau-là par rapport à la moyenne française?
Alors, on a plutôt des données régionales que des données finistériennes. Il faut savoir qu'on n'est pas non plus très éloigné des données nationales, même si sur certains, l'égalité du coût salarial ou encore du coup la création d'entreprises par les femmes, on est un petit peu meilleur du coup. Faut savoir que les problématiques ne sont pas très éloignées de ce qu'on retrouve dans les autres départements, et on travaille évidemment pour diminuer l'écart salarial, pour renforcer la mixité des métiers, en sachant que tout ça c'est lié, puisque l'écart de salaire, donc c'est lié à l'effet plafond de verre dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein, le fait que les femmes n'accèdent pas aux postes les mieux rémunérés. C'est lié aussi quand même à la question de la mixité, puisqu'on sait qu'il n'y a que 17% de métiers mixtes aujourd'hui en France et que les femmes se concentrent sur les métiers qui sont les moins bien payés, les moins bien valorisés.
Ce qu'on appelle les métiers mixtes.
Oui, en fait, du coup, sur 17% de métiers mixtes, en fait, au sens du coup statistique, on considère qu'un métier est mixte quand il y a 40 à 60% de l'un des deux sexes. Donc, en fait, il y a très peu de métiers où on a une vraie mixité. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire et un enjeu différencié pour les femmes et pour les hommes, puisque les femmes se concentrent sur à peu près 12 familles professionnelles, la moitié des femmes sur 12 familles professionnelles, alors que la moitié des hommes se concentrent sur 20 familles professionnelles. Et en plus, les femmes se concentrent plutôt sur des métiers qui sont moins bien valorisés financièrement. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et puis, je vais finir juste sur l'écart salarial. Il y a aussi, évidemment, l'effet temps partiel qui joue, forcément, puisque qui dit temps partiel dit salaire partiel, dit aussi retraite très partielle. Hein. Il y a une différence de 650 euros entre la pension mensuelle d'un homme aujourd'hui et celle d'une femme. Donc, on voit là qu'il y a un vrai travail à conduire. Et il faut savoir aussi que si on prend en compte tous ces facteurs-là, si on les neutralise, il reste encore un écart de 5 à 10 points entre le salaire des femmes et le salaire des hommes aujourd'hui en France. Donc ça, c'est lié à la discrimination directe qui est faite à l'égard des femmes. Donc c'est évidemment ça aussi qu'il faut combattre.
Alors, Marion Clément, pardon, c'est le sujet qui revient régulièrement ou pas? Comme je disais dans l'entame de l'émission, est-ce que c'est l'arbre qui cache un peu la forêt?
En fait, comme je viens d'expliquer, il y a plein de facteurs qui expliquent cette différence du coût de salaire. Il y a aussi la discrimination directe qui est faite à l'égard des femmes. Évidemment, si on veut travailler du coup à réduire cet écart de salaire, il faut travailler sur toutes les autres questions. Donc c'est un peu ce qu'on disait en introduction avec Gaëlle Vigouroux, c'est vraiment une approche transversale qui est indispensable. De la même façon, on peut pas parler de l'écart de salaire sans parler de la question de la charge familiale qui repose aujourd'hui essentiellement sur les femmes. Quand on sait que 72% des tâches domestiques sont encore aujourd'hui réalisées par les femmes en France.
72%?
Oui, 72%. C'est énorme. Et du coup, on sait bien que ce temps-là, il n'est pas passé du coup à s'investir en politique, à du coup au loisir ou au travail. Donc il y a un vrai enjeu et on ne peut pas parler de l'écart de salaire sans parler de cette charge du coup familiale qui explique aussi les temps partiels, etc., etc.
Est-ce que parmi votre mission, justement, l'éducation, l'intervention dans les écoles a une grande part. Enfin, justement, est-ce que justement cette question de la mixité, est-ce qu'on l'aborde suffisamment dès le plus jeune âge?
Alors du coup, forcément, il y a un travail à faire. J'étais justement hier dans un collège à Pont-l'Abbé pour former des enseignantes et enseignants. Donc j'étais formatrice avec d'autres, avec des professeurs. Et du coup, pour travailler justement cette question de l'égalité femmes-hommes, qui se joue évidemment dès la petite enfance et qui ensuite, évidemment, se poursuit. Et on sait très bien aujourd'hui que les enseignantes et enseignants, comme nous toutes et tous, on a des stéréotypes en nous et on va même inconsciemment forcément les véhiculer. Donc on sait aujourd'hui, les études le montrent, qu'il y a des pratiques différenciées des enseignantes et enseignants en fonction du sexe de l'élève. Ça, c'est prouvé. Et évidemment, si on ne fait pas un travail d'observation, on passe à côté et on ne rectifie pas le tir. Donc, il y a un travail à faire pour sensibiliser les enseignantes et enseignants à cette question, pour que ce soit pris en compte à la fois dans la façon dont on enseigne et puis aussi dans le contenu des enseignements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on sait que dans les manuels scolaires, il n'y a que 10% des personnages qui sont féminins, on sait qu'il y a un vrai enjeu à travailler aussi le contenu des enseignements, à faire en sorte que les jeunes filles puissent se projeter aussi sur certains métiers, sur certaines destinées, etc. Il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Et évidemment, dans l'idéal, il faut aussi former les professionnels de la petite enfance. Donc ça, on commence à le faire. C'est tout nouveau, parce que du coup, c'est quand même assez récent qu'on intègre aussi cette question-là dans la formation des professionnels de la petite enfance. Mais là aussi, c'est inévitable. Il faut qu'on en passe par là pour évidemment travailler sur toutes ces inégalités.
Gaëlle Vigouroux.
Je crois que l'éducation, c'est la clé, en fait. Je crois que déjà, qu'on soit au stade de la petite enfance ou des écoles primaires, les discriminations et quelque part le fait qu'une cour de récréation, par exemple, dans une école primaire, elle peut être entièrement tournée vers les jeux des garçons. Quand il y a une partie de foot qui se met en place dans la cour, qu'est-ce qui reste pour jouer à la corde à sauter? Qu'est-ce qui reste pour faire
autre chose? Le foot monopolise, il y a une étude qui a été faite, le foot monopolise le centre de la cour. Et les jeux autour sont plutôt dédiés aux filles, l'espace, voilà. Donc, la géographie de la cour d'école est très importante.
Par exemple, alors il y a des enseignants qui sont conscients que c'est en répartissant l'espace ou en abordant la thématique et en débattant quelque part avec les équipes enseignantes, voire avec les élèves, qu'on va pouvoir, comment dire, redéfinir finalement quelle est la place de chacun et comment est-ce qu'on peut même amener les enfants à travailler davantage, à faire davantage ensemble, peut-être initier une partie de foot, filles-garçons, et ça c'est intéressant, ou de faire un grand jeu tous ensemble, etc. Donc ça l'enseignant évidemment a la latitude de pouvoir prendre en compte ce sujet qu'est l'égalité, parce que si lui ne le prend pas en compte, il faut espérer que dans la sphère familiale on ait aussi du débat. D'accord ? Parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qui reste ? Qui est-ce qui se charge de l'éducation des enfants ? Est-ce que c'est la télévision, par exemple ? Est-ce que c'est la télé-réalité qui reprend ses droits derrière ? Alors, c'est vrai, on peut faire tous les efforts qu'on veut. Alors, on le fait, on soutient des actions au niveau de la petite enfance, au niveau des écoles. Dans les collèges, vous avez parlé du Finistère tout à l'heure. Le département du Finistère a une politique extrêmement engagée sur l'égalité dans les collèges et permet à des classes, à des enseignants, du coup, de monter des projets autour de l'égalité fille garçons, et justement de faire avancer l'éducation. Au niveau régional, c'est la même chose. Vous avez des projets CARTA, où l'égalité est un des thèmes que la région va pousser à être travaillé au niveau des lycées. C'est un thème, en plus, qui intéresse énormément la jeunesse. Dans le cas du Conseil régional des jeunes, vous savez qu'à la région, vous avez un Conseil régional des jeunes qui, autant d'élus venant des lycées qui font un travail d'élus, et sur l'égalité, ils ont énormément travaillé, ils se sont emparés du sujet et ils ont vraiment voulu analyser les politiques publiques qu'on mettait en place. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est vraiment avoir un regard sur les politiques publiques. Et pour finir, l'éducation, on a tous des stéréotypes. Moi, je me rappelle, je suis formée à l'égalité, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'égalité professionnelle. Un jour, je vais dans une entreprise et je vois un chariot de ménage qui était devant l'entrée d'une salle de réunion. Et je déplace le chariot de ménage et je dis, voilà, comme ça, ce sera plus facile pour la dame. C'était pas une dame qui faisait le ménage dans cette entreprise, c'était un garçon. Alors, des stéréotypes, on en a tous, c'est pas bien, c'est pas mal. C'est juste qu'il y a un moment, soit on en prend conscience et on agit différemment, soit on ne travaille pas la question et en effet, les stéréotypes ne vont faire que s'agrandir.
François Sanquer, vous voulez réagir ?
Oui, je veux réagir parce que je suis tout à fait étonnée de ce que vous dites. Enfin, ça m'étonne pas vraiment, mais moi, quand j'étais enfant, eh bien, on jouait pas au foot dans la salle dans la cour de récré. On jouait à la marelle, on jouait à la corde à sauter, on jouait aux gendarmes et aux voleurs, aux cow-boys et aux indiens, et à saute-mouton, et tout ça, c'était mixte. Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé.
Alors justement, on va, c'est très intéressant. On a un micro puisque en fait j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi que le public pouvait réagir. On va laisser aussi le public peut-être réagir. Vous voulez dire, François Sanquer, que il y a eu une dégradation à ce niveau-là, ou alors
Moi j'ai connu complètement autre chose en tout cas. Je suis pas.
Alors, Patrice,
suis
et puis on va laisser le public réagir.
Tout à fait, encore.
Docteur Sanquer, je vous entends
je suis
bien, étonnée. Moi, mais dans les années 70. Moi, j'étais en primaire, en l'occurrence, il y avait une cour pour les filles et une cour pour les garçons. Du coup, je suis surpris, mais... Donc ça veut dire que dans les années 60 ou 50, c'était différent ?
Sûrement, dans les années 60, oui. Mais le problème, c'est que nous jouions aussi dehors avec les copains garçons.
Pas qu'à l'école.
Non,
d'accord.
Il y avait effectivement une mixité tout à fait différente.
Alors, on va laisser le public. On va donner la parole au public.
Au niveau des enfants, il n'y avait pas de match.
L'école n'était pas mixte quand même. Donc.
On va donner la parole au public.
Juste pour dire que nous, quand on était jeunes, il y avait des écoles pour les filles et des écoles pour les garçons. Mais nous avions des copains que nous retrouvions dans nos quartiers et nous allions en bande jouer à l'extérieur. Nos parents n'avaient pas peur de nous laisser partir à droite et à gauche. On construisait ensemble des cabanes, on faisait des jeux. On jouait au foot aussi si on voulait avec les garçons, mais c'était en dehors de la sphère de l'école. C'est des écoles pour les filles et des écoles pour les garçons.
Moi, j'ai connu une école mixte, désolée.
Alors, c'était
pas beaucoup.
Pas la généralité.
Pas à l'école maternelle. Mais
c'était
après.
Pas une généralité, madame, à cette époque-là.
J'ai eu de la chance alors.
Alors, justement, on continue sur cette question de mixité, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'elle est très intéressante. Elle est très intéressante. Est-ce que. Alors, on a parlé du rôle de l'école, le rôle de l'éducation. Et quel est le rôle de la famille aussi dans et vous allez pouvoir prendre la parole aussi docteur François Sanquer, puisque j'imagine que c'est quelque chose auquel vous faites allusion pendant vos cafés
tout à fait. J'ai eu un père qui est instituteur
Hein. Et il disait, l'école c'est fait pour instituteur laïque, donc, je précise, puisqu'il l'a connu dans les années, il a commencé en 22, je crois, en 1922 son métier. Et il disait, l'école c'est fait pour apprendre à lire, écrire et compter.
Mais dans les cafés que vous organisez, est-ce que c'est quelque chose, justement, au sein de la famille? Comment on éduque à la mixité?
Pour moi, l'éducation, c'est la famille. L'école, c'est l'enseignement. C'est pas tout à fait pareil.
Alors, Marion Clément, vous voulez réagir?
Justement, hier, j'étais justement formée des enseignantes et enseignants. Il faut savoir que l'apprentissage de la culture de l'égalité filles-garçons-femmes-hommes, elle est inscrite aujourd'hui dans les textes. Donc, l'école a vraiment ce rôle-là et c'est inscrit dans les textes.
Oui, mais est-ce que c'est pas une erreur? On peut se poser la question.
Alors, pour moi, non. Forcément, non. Et justement, c'est vraiment une plus-value puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans les familles, du coup, c'est une question qui est forcément abordé, voilà, mais on a des familles qui peuvent être, qui peuvent avoir, voilà, différentes façons de faire par rapport à sa question d'égalité filles-garçons, et du coup, c'est important que l'école ait ce rôle-là, et c'est vraiment indispensable. Donc,
oui, mais ça a un effet pervers. Parce que du coup, si c'est à l'école de faire l'éducation, les parents s'en occupent pas.
C'est un des rôles, des endroits, du coup, d'apprentissage.
Vous savez parfaitement que... excusez-moi, moi, je m'occupe beaucoup de psychologie, de réflexion. Hein, et vous savez parfaitement, c'est pas à toi de le faire, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Hein. Donc, si c'est l'école qui fait, c'est à elle de le faire. Et c'est tout. Il y a beaucoup de gens... J'ai, par exemple, une de mes anciennes patientes qui, un jour, qui était institutrice dans une école maternelle. Il y a 2 ou 3 ans, elle m'a raconté cette histoire. Il y a un petit garçon qui est arrivé un jour avec des chaussures lacées, alors qu'il avait d'habitude des chaussures à scratch. Et sa maman est arrivée en disant, je lui ai mis des chaussures lacées pour que vous lui appreniez à les lasser. C'est pas le rôle de l'institutrice.
Oui, bien sûr.
Il y a une complémentarité peut-être aussi, non, entre l'école et les parents.
Enfin, il faut pas opposer. Enfin, je veux dire, il y a des parents qui font tout ce qu'il faut pour éduquer. Il y a des parents qui font tout ce qu'il faut pour éduquer, mais qui ont des difficultés de vie, pour eux, l'égalité, quand il faut faire bouillir la marmite à la fin du mois, que c'est compliqué, l'égalité, des fois, ça passe un petit peu à côté.
Bien sûr.
Bon, voilà, tout le monde n'a pas le même niveau en plus de connaissances, des stéréotypes, des moyens dont on tout le monde n'a pas conscience, quoi. Donc c'est complètement, les efforts ils doivent être convergents.
Donc dans la famille c'est important faire comprendre cela. Excusez-moi.
Maintenant mais arrêtez. Peut-être qu'on pourrait ne pas se couper la parole. Ce serait
mais
super.
Oui mais vous parlez.
François Sanquer, c'est dans le micro parce que c'est une émission.
Oui pardon. Voilà. Donc non mais chacun son tour effectivement.
L'éducation elle est partagée aujourd'hui et l'école en effet pour moi je vais vous dire il faudrait que ce soit une matière. On parle de morale à l'école, on parle de vivre ensemble. L'école elle est aussi là pour former des citoyens. La famille évidemment elle est là pour l'éducation, le respect, elle est là pour accompagner ses enfants. Voilà mais on fait aussi, enfin j'ai un club de sport, c'est des valeurs, c'est du respect, c'est partout on peut parler d'égalité et l'égalité elle doit infuser toute la société parce que sinon on changera rien si on se renvoie la balle entre non c'est la famille, non c'est l'école, non c'est tout le monde et c'est on n'y fait pas qu'en mars non plus, c'est toute l'année et tout le temps. Vous parliez de la famille c'est le lieu où on observe les inégalités familiales et les inégalités dans les rôles sociaux. Évidemment que quelqu'un, un enfant qui est élevé dans une famille où la femme quelque part travaille et en même temps a sa double journée et fait toutes les tâches ménagères interne, là où le papa ne participe pas, évidemment le modèle qui est amené à l'enfant va être un certain modèle. Dans une famille qui est plus égalitaire, où les rôles sont un petit peu plus travaillés, discutés, négociés, etc., et où finalement une famille égalitaire, comme il y en a de plus en plus, vos enfants vont vivre dans un autre écosystème et demain ils auront aussi d'autres pratiques. Donc vraiment voilà, c'est...
Quel est le paysage justement? Il y a des associations avec lesquelles vous travaillez au niveau de la direction départementale? Justement pour intervenir, pour accompagner ces familles.
Ah oui, il y a beaucoup d'associations présentes. On a la chance d'avoir un département qui est très dynamique au niveau associatif. Donc, on a évidemment des associations qui s'occupent des droits des femmes, notamment le Centre d'information des droits des femmes et des familles, par exemple, qui est présent sur tout le département avec des permanences qui sont délocalisées. Donc, au-delà des antennes Brest, Quimper, Morlaix, il y a aussi des permanences ailleurs sur le département, y compris dans des zones plus rurales. On a d'autres associations, évidemment, qui interviennent sur ces questions-là. Je peux citer quand même le planning familial, sociale, la Maison pour toutes Elle Cause. On a aussi des petites associations comme la Bricotier à Concarneau et la Bricotier à Quimperlé, des équipes de bénévoles qui font un travail remarquable sur les violences faites aux femmes. Et puis évidemment, après, on va avoir des associations qui sont un peu plus spécialisées. Par exemple, on a cité dans l'entrepreneuriat Entreprendre au féminin, mais on a aussi Elle en Cornouailles, Elle à Brest, du coup, sur les femmes cadres. Donc c'est vrai qu'on a un paysage associatif riche et c'est vrai que c'est important pour répondre du coup aux besoins du coup des femmes et des hommes sur ces questions-là.
Alors je profite aussi, j'ai oublié, je devais le faire, mea culpa. Je profite aussi de l'émission pour il y a eu une boulette, en fait une erreur glissée dans le programme de la série, puisque Gaëlle Vigouroux, je devais le faire, j'ai oublié de le faire, je le fais maintenant, c'est très important. Vous n'êtes plus effectivement présidente d'Entreprendre au féminin, mais vous avez fondé Entreprendre au féminin. Si on a le temps, on en parlera. Juste un mot, donc l'actuelle présidente qui est...
Sandrine Codinard. Voilà. Alors, je suis plus présidente depuis 2009 quand même. Hein, Mais en même temps, je reste chevillée. Enfin, je serai toujours membre d'honneur d'Entreprendre au féminin. C'est-à-dire que je porte tout ça avec passion.
On va faire une pause musicale et on se retrouve dans un instant. Les nouveaux auditeurs qui arrivent sur l'antenne de Radio Évasion. Nous sommes en direct depuis la médiathèque Angela Duval à Plougastel pour une émission, extramuros, l'émission de Radio Évasion. Plougastel, ta ville. La boulangerie de Plougastel, les crêpes, non, c'est pas les crêpes de Plougastel. Donc pour une émission sur le thème l'égalité filles garçons, si on en parlait, ça c'est le nom de l'événement qu'organise l'Astérie. Donc c'est une émission en partenariat avec l'Astérie et la médiathèque Angela Duval. Et nous sommes en direct.
On a globalement très peu de pratiques réellement mixtes. On a surtout beaucoup de sports soit très masculins, soit très féminins. Donc très masculins typiquement rugby, foot, cyclisme. Et dans les sports féminins, natation synchronisée, gymnastique, danse. Donc ça, c'est une première chose, et ces différences-là qu'on observe en termes de type de pratique, elles sont observées avant l'adolescence, c'est-à-dire avant même que finalement les différences physiques entre les filles et les garçons deviennent réellement significatives. On a souvent tendance à surestimer les facteurs biologiques. En réalité, on a une grande part de social dans tout ça, qui est difficilement mesurable parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, mais on sait que dès la naissance, les parents se comportent différemment en fonction de s'ils ont un petit garçon ou une petite fille. Ça va de simplement les opportunités qu'on donne aux enfants de s'investir dans une activité sportive, de regarder des matchs à la télé ou non. Ça passe aussi par les jouets, c'est-à-dire que si on regarde les jouets des petites filles, c'est plutôt des jouets qui les amènent vers l'intérieur, vers des activités plutôt calmes, alors que les jouets des petits garçons, c'est souvent des jouets qui les amènent vers l'extérieur et à être actifs et en mouvement. Et en fait, tout ça cumulé fait qu'à un moment donné, effectivement, à une période aussi cruciale que l'adolescence, effectivement, les écarts se creusent. En plus de toutes les normes qui sont véhiculées notamment chez les filles, les normes de la féminité ne sont pas du tout en correspondance avec les normes corporelles de la pratique sportive. Ça crée des conflits identitaires qui amènent bien souvent les jeunes filles à arrêter la pratique pour rester dans les codes de la féminité, on va dire.
Comment est-ce qu'on pourrait définir un stéréotype, et est-ce que vous pourriez donner un exemple justement dans le sport ?
Un stéréotype, c'est globalement une croyance partagée. Il faut que ce soit assez consensuel. Ça peut être sur des comportements, des traits de personnalité, sur plein de choses. Un stéréotype assez classique serait de dire que les hommes ont l'esprit de compétition quand les femmes ne l'ont pas.
Et ça, c'est faux, bien sûr.
C'est faux, oui et non, parce que finalement, la façon dont on éduque nos enfants amène les femmes et les hommes à se comporter de telle manière qu'ils, plus tard, confirment les stéréotypes. Donc, si on faisait une étude aujourd'hui sur les traits de personnalité, par exemple, probablement qu'on verrait beaucoup de femmes avec des traits de caractère sensibles, etc., etc. Sauf que, quelle est la part de l'éducation et quelle est la part de l'inné ou du biologique ? Pour l'instant, c'est difficilement mesurable, si vous voulez. Pour savoir précisément ce qui amènerait nos garçons et nos filles, d'un point de vue biologique, à se comporter de telle manière ou à aimer telle ou telle chose, il faudrait qu'ils soient éduqués dans un laboratoire, ce qui est juste impossible. En sortant du cadre de la thèse, ce qui me choque le plus, c'est que, par exemple, mes collègues qui sont très investis dans le football, pour qui c'est au-delà d'une passion, c'est aussi un métier ou au moins un temps plein, parce qu'elles sont très investies, beaucoup d'entre elles ont ce besoin de garder et de montrer aux autres un côté féminin. C'est-à-dire, oui, je m'investis dans le football, mais je reste femme. C'est-à-dire qu'elles sont sans arrêt en train de négocier les injonctions paradoxales qui sont d'une part faites par la société, c'est-à-dire être une femme avec tous les attributs physiques, psychologiques que ça comporte, et de l'autre, être une sportive de haut niveau, une footballeuse de haut niveau, avec tous les attributs et les compétences nécessaires. C'est-à-dire un corps athlétique, un corps rapide, puissant, qui soit capable de sauter haut, de courir vite et longtemps. Et tout ça, en fait, fait que elles sont sans arrêt dans un conflit et que pour résoudre ce conflit, elles vont, je sais pas, pour vous donner un exemple, soit se maquiller à outrance sur le terrain, soit se lisser les cheveux avant le match alors qu'il fait 80% de taux d'humidité dehors. Enfin, on fait du coup, il y a des choses assez risibles dans le vestiaire, quoi. Où moi, de mon regard extérieur et aussi d'experte sur la thématique, je me rends bien compte que c'est toujours un problème, que c'est toujours difficile pour une femme de pratiquer le football librement sans avoir soit des complexes, soit des conflits identitaires.
Donc une interview de Mélissa Plaza. Mélissa Plaza qui était une joueuse de foot professionnelle. Elle a joué à l'Olympique Lyonnais à Guingamp. Elle a joué dans l'équipe de France. Elle est docteur en psychologie sociale. Elle a écrit une thèse sur les stéréotypes dans le sport. Elle vit actuellement en Bretagne et a créé un cabinet de conseil qui a un prof sur l'égalité homme-femme.
Elle entraîne également le club
de Saint-Malo. Et c'était une interview réalisée par Véronique Museau, notre amie Véronique Museau. Interview disponible sur le site de Radio Évasion. Voilà l'intervention de Mélissa Plaza, Arnaud Clugery et ma chère Agnès Guyader. Bonjour, merci d'être avec nous ici en direct.
Bonjour.
La médiathèque Angela Duval à Plougastel d'Aoulas. Elle est étonnante, non, cette intervention de Mélissa Plaza. Il y a certaines choses que j'aimerais bien soulever par rapport au football féminin, entre autres.
Alors, Moi, je ne la trouve pas si étonnante que ça. D'abord, je voulais saluer Mélissa, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît très bien à Dirinon. Il se trouve que à Dirinon, nous avons comme joueuse la marraine sportive de Mélissa Plaza, puisque lors d'une rencontre avec l'équipe de France, nous avions, il y a 5-6 ans de ça, nous avions organisé un marrainage, c'est-à-dire qu'on a plusieurs petites joueuses de Dirinon qui sont devenues les marraines de certaines joueuses de l'équipe de France. Et donc, on a Aël Kerdraon, qui est la marraine de Mélissa, ce qui fait qu'on a des liens assez soutenus, enfin qui ont été conservés avec Mélissa. Et on évoque de temps en temps ces questions-là. Et moi, de son analyse, bon, je pourrais en dire plus, mais je partage assez ce qu'elle dit. Ouais.
Alors c'est étonnant, moi j'ai relevé quand même quelque chose et je pense que là je vais plutôt m'adresser à Agnès Guyader qui joue au football donc à l'AS Dirinon. Il se passe des choses un petit peu compliquées dans un vestiaire de femmes apparemment. Pour pratiquer le football, il y a une espèce de conflit identitaire, il y a des complexes également. Est-ce que c'est vrai tout cela? Comment toi tu vois les choses, Agnès, toi qui connais l'ambiance des vestiaires foot féminin?
Je trouve que les féminines actuellement restent féminines justement dans les vestiaires. C'est vrai que j'ai entendu qu'elles passaient beaucoup de temps à se coiffer, tout ça. Je trouve ça plutôt bien parce que les filles qui jouent aujourd'hui doivent rester féminines justement pour peut-être rassurer les parents qui se poseraient des questions justement par rapport au fait que le football soit un sport plutôt masculin. Voilà, elle reste très féminine et moi je trouve ça plutôt bien.
Ah, Arnaud Clugerie, on peut arrêter la pratique du football pour rester dans les codes de la féminité aujourd'hui?
Alors, je voudrais revenir.
Ça m'interpelle quand même, ça.
Ouais. Alors, je voudrais revenir un peu en arrière pour d'abord dire que Mélissa l'a dit, il y a quelques sports qui ne sont pas identifiés comme des sports féminins. Il se trouve que la plupart du temps, ce sont des sports de plein air. Je le fais remarquer à ceux qui suivent. C'est-à-dire qu'en fait, on part très petit du principe dans les stéréotypes qu'on a besoin de combattre, nous, clubs de foot et souhaitant le développement de la mixité. On part déjà d'un postulat, c'est que les sports de plein air ne seraient pas faits pour les filles. Que quand il y a du vent, quand il fait froid, quand il y a de la grêle, quand il pleut, les filles, elles ne pourraient pas assumer ça. Que quand il y a de la boue et quand on rentre sale, ce n'est pas féminin. Et donc ça, c'est typiquement un stéréotype contre lequel on se bat et contre lequel les filles qui jouent, elles ont fait le grand chelem hier de rugby, les rugbymen, rugby woman, je ne sais pas si on dit d'ailleurs, si on féminise. Et voilà, donc ça, c'est un premier point, c'est un début de réponse à ta question. Avant de se demander si on reste féminine ou pas, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on reste séducteur et séductrice? C'est-à-dire qu'on a tous besoin de séduire, qu'on soit un homme ou une femme. Et on ne séduit pas plus quand on est un homme, quand on ressemble à David Beckham, que quand on est, habile, je ne sais pas, habile sur le terrain. Tout ce qu'on accorde aux hommes comme outil de séduction, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut l'accorder aussi aux femmes et que ça ne doit pas relever que des critères esthétiques ou autres. Et donc nous, dans le foot féminin, moi j'aspire à ce que les femmes comme les hommes utilisent toute la palette de séduction qu'elles ont, quelle que soit leur physiologie, et que être très performant dans le sport, c'est un outil de séduction. Je m'arrêterai là parce que je sais pas mon métier non plus de philosopher là-dessus, mais puisqu'on m'interroge, voilà.
Gaëlle Vigroux, vous voulez intervenir?
Oui, moi je pense que déjà il faudrait déjà dire que toutes les sphères et tous les milieux sont accessibles aux femmes comme aux hommes. Déjà, un postulat. Oui, on peut faire du foot et on a droit de faire du foot. Comme on a droit d'être séductrice et pas séductrice. On a droit de pas se reconnaître dans les valeurs dites féminines. Vous avez pléthore de femmes qui n'ont pas, ne se maquillent pas, par exemple, et qui n'ont pas envie de se maquiller, et elles ont le droit. L'injonction d'être féminine quand on est une femme, bof, quoi. C'est comme l'injonction pour les hommes de dire, vous n'avez pas le droit d'exprimer votre sensibilité, ou dire aux petits garçons, vous n'avez pas le droit de pleurer. Eh ben, c'est aussi nier les qualités intrinsèques de chaque humain. Donc l'égalité, c'est pas les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça, c'est on est tous différents, on est tous uniques, et on a tous du féminin, du masculin qui s'exprime différemment au moment de notre vie, le matin ou le soir, et on est tous différents et fluctuants. Déjà, une autre chose, vous avez une petite collection qui s'appelle Égal à Égal, qui traite de tous ces sujets-là, et vous avez une dame qui est neurobiologiste, qui s'appelle Catherine Vidal, et qui a écrit qui a écrit tout, qui a fait un bouquin et qui fait des conférences sur une thématique qui s'appelle « Le cerveau a-t-il un sexe ?» Et on la faisait intervenir à la Région cette semaine. Elle nous a démontré qu'il n'y a pas de différence de cerveau entre les femmes et les hommes au départ. On est bien dans un contexte social et culturel qui va progressivement faire en sorte que les femmes ne se sentent pas forcément en confiance ou sensibilisées pour aller vers certains secteurs, certains sports, etc. Donc ça se construit évidemment. Si on mettait pas de freins au départ sociaux et si on mettait pas de freins aussi dans la famille quelque part. Aussi, genre acheter une poupée à un garçon, oh, au secours. Non, c'est, si un garçon a envie d'avoir une poupée, c'est formidable. Et si une fille a envie d'avoir un garage, ben c'est super aussi. Voilà, et tout ça, ça se change là.
Où peut-on trouver justement sur Internet, c'est disponible, votre Égal à Égal ?
Égal à Égal aux éditions Belin, dans toutes les bonnes librairies qui s'intéressent au genre.
Je dis pas tout sur les grands médias, vous retrouvez ça sur le site de la radio, c'est pas sûr. Donc, Égal à Égal.
Merci Gaëlle.
Françoise Sanquer, vous vouliez intervenir ?
Oui, c'était juste pour dire que pour moi, l'égalité, c'est un mauvais mot. Je préfère l'équivalence, c'est-à-dire un kilo de plomb égale un kilo de plume. Nous sommes différents, effectivement, comme vous avez si bien dit. Mais l'égalité est un mot qui peut être mal interprété. Nous ne voulons pas être exactement des hommes. On ne veut pas la neutralité, comme disait madame, je suis d'accord. Mais nous sommes tous différents. Ça, c'est une première chose, bien que j'ai eu une patiente aussi qui travaillait chez Berliet à l'époque à Quimper, je crois. Et la seule chose qu'elle ne pouvait pas faire, elle s'occupait des grands, des 35 tonnes et tout, c'est changer les roues, parce qu'effectivement, c'était trop lourd. Tout le reste, elle faisait. Hein. Et en plus, je voulais donc... Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est réagir sur le mot « et ». Plutôt équivalence, qui me plaît plus.
Marion Clément.
On va trouver des hommes qui vont pas pouvoir changer les roues aussi. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que égalité, ça veut pas dire qu'on est tous pareils, pas du tout. Ça veut juste dire l'égalité en droit. Et ça, c'est pour moi le terme égalité est tout à fait approprié.
Encore une fois, il faut rajouter en droit, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de gens qui vont vous dire ouais. Bon, vous n'avez jamais reçu de porte dans la figure ? Moi, si. Vous l'avez voulu être égal aux hommes et vlan. La galanterie, c'est pas une galanterie, c'est de la politesse.
Ben, je suis désolée, mais la galanterie, si on remonte un peu, c'est de dire un peu que les femmes sont un peu plus faibles, etc.
Oui, ben justement.
Après, c'est intéressant aussi d'écouter ce genre de choses. Moi, personnellement, je tiens la porte à mes collègues masculins.
On va revenir sur le sport.
Je tiens la porte aux hommes qui me suivent.
Absolument,
etc.
Mais
donc,
tout à fait.
Là aussi, hein, l'égalité, c'est l'égalité en droit.
Absolument.
Et juste pour
terminer,
très rapidement
oui.
Sur les stéréotypes, c'était important sur le sport, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui abandonnent le sport au moment de l'adolescence. Hein, les stats le montrent. Hein, beaucoup plus de filles que de garçons qui abandonnent. À ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une vraie injonction à la féminité, une injonction à la vérité pour les garçons et ça joue sur le sport. Et juste dire que les stéréotypes de genre, du coup, jouent à fond là-dessus et malheureusement, on a encore beaucoup de travail à faire pour permettre à toutes et à tous de choisir les trajectoires comme bon nous semble. Et sur les stéréotypes, juste un petit exemple qui montre bien les choses. On a fait des expériences, on prend un bébé, on l'habille en bleu, enfin on dit que c'est un garçon, ce bébé pleure, on va dire « Ah, il est grognon aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il a ?» etc. On fait la même chose avec le même bébé, on l'habille en rose, on dit que c'est une fille, la réaction des gens est différente. Ça va être « Oh, sa maman lui manque, oh, elle a peur, oh... » Voilà. On sait bien qu'on projette pas la même chose sur les enfants dès le plus jeune âge. Donc, il y a vraiment, vraiment un travail à faire pour déconstruire les stéréotypes qui sont en nous et pour faire ce travail-là de déconstruction et pour permettre à toutes et à tous d'aller vers les voies qui nous plaisent.
Merci Marion Clément.
On revient
sur la question justement du foot, parce qu'on l'a introduite aussi dans ce débat, puisqu'elle nous paraissait intéressante dans la mesure où le foot, le sport et le foot en particulier cristallisent quand même justement beaucoup ces stéréotypes, Patrice.
Ah, il faut savoir que dans les rédactions, puisque c'est mon métier et que j'ai arpenté plusieurs rédactions dans ma carrière de bientôt 30 ans, mais il y a, comme disait Marion, au niveau des stéréotypes, il faut savoir qu'une rédaction, quand le sport est féminin, nous on l'a bien testé ici sur Brest avec le Brest-Bretagne Handball, par exemple, vous prenez le journal L'Équipe. Quand on traite du handball dans L'Équipe, on parle du handball masculin. Et le handball féminin va faire trois lignes dans la page d'onde. Hein. C'est régulièrement comme ça. Quand on parle de sport féminin dans une rédaction, savoir que les rédactions sont souvent une très très grande majorité d'hommes. J'ai connu deux collègues journalistes dans ma rédaction, femmes, depuis 27 ans. Les femmes sont toujours considérées dans le sport comme « oui, mais ça reste du sport féminin ». C'est exactement, je pense, Arnaud et Agnès. Aujourd'hui, toujours le même problème dans le football. Le football qui a connu un pic. L'AS Irénon est bien placé pour en parler, puisque vous avez eu un prix en 2012 par rapport à l'engagement dans le football féminin. Aujourd'hui, on évoque un peu moins le football féminin, Arnaud.
Oui, oui et non. Oui, parce que les choses ont quand même beaucoup bougé depuis 10 ans, puisqu'on parle de d'Irénon, l'ère moderne du foot féminin à d'Irénon, c'est il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, à l'AS d'Irénon, il y a 300 licenciés. Sur les 300 licenciés, il y a à peu près un tiers qui sont des féminines.
90, hein.
Ouais, c'est ça. Ça va de 7 ans jusqu'à presque les joueuses les plus âgées vont tranquillement sur leurs 50 ans. Il y a deux équipes seniors. Donc en fait, sur ces 10 dernières années, il y a un vrai progrès, puisque il y a 10 ans, je vous aurais pas dit ça du tout. Donc il y a un vrai progrès. Il y a évidemment derrière de l'énergie dans le système qui doit être mis pour changer les choses. Elles se changent, elles se réforment jamais toutes seules. Donc on profite d'un certain nombre on mène des actions, on montre, enfin on est beaucoup, enfin je voulais aussi dire que même si Agnès et moi on est là aujourd'hui à représenter l'AS d'Irénon, l'AS d'Irénon ne se considère pas comme un club militant sur l'égalité
homme-femme. Qu'est-ce qui vous a rendu pionnier un peu quand même?
C'est un club qui veut faire de l'égalité homme-femme comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, quoi. C'est-à-dire que nous, on est un club familial, et quand on dit familial, c'est les hommes et les femmes. Et dans le club de l'AS d'Irénon, il y a un tournoi international qui est porté par les familles, et donc on a toujours eu des femmes dans nos organisations. Et par contre, on n'avait pas nos enfants. Tous nos enfants. Et donc, le démarrage, c'est juste ça. C'est-à-dire que.
Il n'y a pas eu de méthode appliquée.
Non, mais pour rester un club familial, il ne pouvait pas y avoir. C'était quelque chose de bancal. Nos filles ne faisaient plus partie de la famille, finalement. Et donc, il y a plusieurs dirigeants du club qui ont souhaité que leurs filles s'inscrivent dans cette démarche familiale. C'est un peu l'idée de départ. C'est cette idée de faire ensemble. Et après, il n'y a pas de démarche militante. Par contre, il y a une démarche d'exemple. On fait de l'éducation en montrant que tout le monde a sa place, quoi. Et nous, on veut que les filles à d'Irénon, elles aient le droit de jouer au milieu de la cour avec les garçons. C'est pour faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi. Et moi, je trouverais intéressant. J'ai vraiment demandé à Agnès de venir avec moi, parce que Agnès, elle a vraiment connu l'avant et l'après du football. C'est-à-dire que je vais lui laisser peut-être raconter un peu son parcours, mais je pense que ça peut être éclairant d'expliquer quels sont les facteurs de changement aussi, quoi.
Dans un sport qui reste extrêmement machiste quand même, quoi.
Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai démarré dans le milieu des années 80, dans un club mixte, forcément, une équipe mixte.
Mais vous étiez une ovni, Agnès.
Un petit peu, c'est vrai. Alors j'avais une copine ou deux qui essayaient 6 mois ou une saison, et puis ensuite, elle arrêtait, donc je me retrouvais souvent seule. Mais ça ne m'a jamais posé de problème, en fait. J'étais vraiment bien intégrée dans l'équipe et j'étais considérée vraiment comme une joueuse, comme un joueur. Et vraiment, j'ai jamais eu de soucis dans les premières années, en tout cas.
Ça veut dire qu'après, ça a commencé les
soucis ? Non, après, en fait, j'ai été obligée de me diriger vers une équipe féminine à 13 ans. Donc, les relations n'étaient plus du tout les mêmes, forcément.
C'est dans les règles, hein, d'ailleurs, Arnaud, je crois, hein. C'est toujours vrai.
C'est-à-dire qu'en fait, on joue en mixité jusqu'à 15 ans. On peut jouer en mixité. D'ailleurs, quand je disais que notre projet à nous, c'est pas un projet d'égalité homme-femme, c'est un projet de mixité. C'est-à-dire que notre projet associatif, il dit pas que la femme doit être l'égale de l'homme ou autre. Enfin, il dit pas le contraire non plus. C'est juste, il dit, on veut de la mixité. On veut garder nos valeurs familiales. Et donc, tout est bâti autour de ça. Et après, il y a l'environnement. L'environnement réglementaire nous dit, à partir de 15 ans, les femmes ne peuvent plus jouer avec les hommes. Donc, et puis il y a des raisons physiologiques à ça, hein. On sent bien, nous qui prenons la mixité, on sent qu'à 14, 15 ans, jusque là, on arrive à démontrer, et les 10 dernières années le prouvent, que biologiquement, physiologiquement, jusqu'à 13-14 ans, vous venez à d'Irénon, vous verrez pas la différence entre une joueuse qui a démarré à 6 ans et un joueur qui a démarré à 6 ans. On démontre par l'exemple que il n'y a pas d'infériorité quelconque d'un genre sur l'autre. Et Et donc ça c'est une chose. Après, à 15 ans, physiologiquement, ça devient plus compliqué, ça peut même devenir traumatique. Mais c'est pas grave. À partir du moment où on a construit le vivre ensemble et la mixité,
expliquez-vous là pourquoi traumatique. Enfin,
ça fait mal. Enfin, je
peux oui, physiquement, en fait, tout simplement, bien sûr, puisque on ne se construit pas de la même façon. Physiquement, il y a beaucoup d'écarts de arriver à 14-15 ans. C'est vrai que.
Puis les garçons auraient peut-être tendance plus aussi à mettre, comme on dit, des boîtes, etc., pour montrer que.
Il y a des filles qui mettent des boîtes aussi, hein. Mais mais oui, non. Enfin, mais là, pour le coup, je sais pas. Moi, je suis pas spécialiste non plus, mais c'est musculaire. Enfin, tout bêtement, hein. C'est
morphologique.
Ça fait plus. Ça fait plus mal. Ça a plus de force, un homme. Ouais, donc, ça fait plus mal. Et bon.
Mais jusqu'à 13 ans, c'est vrai que chacun a y gagné aussi. Le fait que ce sport soit partagé en mixité, chacun a y gagné, aussi bien les garçons que les filles. Hein.
Vous voulez lui poser une question
Je voulais juste dire que ça peut faire mal, c'est tout. Pas obligatoire, c'est pas obligatoire. Non, je voulais dire tout à l'heure que le sport, ce n'est pas que la compétition. Et je voulais rappeler que, statistiquement parlant, après 50 ans, ce sont les femmes qui font plus de sport. Mais plus de la marche, de la course, du jogging, des choses comme ça, hein, tout simplement.
Ça fait. Et d'ailleurs, moi, j'en profite pour rebondir, pour dire aussi que notre démarche, c'est pas que le sport. C'est-à-dire que quand on parle de mixité dans le club, on parle de mixité à tous les étages. C'est-à-dire que nous, on veut que les jeunes joueuses puissent jouer, mais on veut que nos jeunes adultes encadrent. C'est-à-dire on veut voir des femmes au bord des terrains, on veut que la représentation elle soit aussi une représentation qui soit conforme à la réalité, c'est-à-dire il n'y a pas que les hommes qui peuvent encadrer le foot, les femmes peuvent encadrer le foot, et puis on veut aussi que cette représentation elle conduise aussi à avoir des femmes qui s'engagent dans l'association à être dirigeantes. C'est-à-dire que le parcours, enfin la mixité, on la veut à tous les étages dans le club, et on attache beaucoup d'importance à ce que ce soit le cas et que les femmes prennent leur place dans ce petit village qu'est le club de foot à Dirinon, quoi.
Alors, oui, Gavigou.
C'est important ce que vous dites parce que c'est l'exemplarité aussi. Et quand vous dites que vous n'êtes pas engagé, si vous êtes très engagé au final, même si si on regarde finalement comment ça se passe ailleurs, vous êtes quand même engagé. Et moi, je trouve que c'est une démarche vraiment exemplaire. Donc, les retrouver en termes de dirigeants, les retrouver dans l'entraînement, on parle d'engagement tout simplement et de mixité. Et entre mixité, parité, égalité, équivalence, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que ce sont des notions quelque part où tout le monde ne se reconnaît pas. Si on a vu par exemple une énorme levée de boucliers vous avez tous entendu parler avec la manif pour tous de la théorie du genre. La théorie du genre, ça n'existe pas. Personne n'a jamais voulu. Les gens de l'égalité, les féministes n'ont jamais voulu transformer les filles en garçons et transformer les garçons en petites filles. On est tous différents et en effet, il y a cette question de la force physique qui à un moment donné devient aussi. On joue pas forcément dans la même cour parce que la force physique, évidemment, c'est pas la même. Voilà. Mais en même temps, il y a des garçons qui sont gringalés, des filles qui sont super costauds. Une fille qui fait du marteau, elle va développer une force physique qu'un garçon qui fait du dessin va pas développer. Donc. Voilà, l'exemplarité, elle est là, et plus il y aura de modèles de femmes qui sont dirigeantes de clubs, qui sont entraîneurs, qui sont joueuses, voilà, plus il y aura de filles à s'entraîner, mais plus aussi on donnera de place au sport féminin dans les médias, plus aussi ça donnera des vocations derrière. Enfin, c'est voilà, toujours
j'espère
pareil.
Que... Monde, merci Gavirou. J'espère que cette condescendance va disparaître chez les hommes journalistes, etc., ou le sport féminin, parce qu'on parlait de compétition, d'esprit de compétition, on va conclure là-dessus. C'est que j'ai rencontré des femmes qui sont allées à un très très haut niveau de sport, qui ont pratiqué vraiment au sommet de leur sport, et j'ai pas l'impression, moi personnellement, dans les interviews, qu'elles ont moins d'esprit de compétition que les hommes, ce qui est complètement grotesque d'ailleurs et ridicule.
Vous pouvez demander à Agnès si elle aime perdre le dimanche.
Ah oui, évidemment que non.
Vous aimez perdre Agnès le dimanche?
Pas du tout.
et on a, il y a quand même du progrès, je pense, parce qu'aujourd'hui des femmes font du rugby, font du hockey sur glace, du hockey sur gazon, du cancel, etc. J'espère que les mentalités vont continuer à évoluer et changer.
Et moi, j'espère que les parents, les mamans accepteront d'inscrire leur fille au foot, même s'il pleut, même s'il y a de la boue et même s'il fait froid. C'est un sport exact. Extraordinaire de collectif.
On va faire une pause.
Extra Muros.
Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mêmes. Et voici Jules qui longe les fesses de l'héritier. Il balaye, et bientôt, quelle merveille, il astique le plancher. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais tout bouge, et voici que les yeux rouges, il fait cuire le rôti. Il cuisine, quelle splendeur assassine. Fait la plongée, il essuie. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais tout marche, mais ça marche. Et voici qu'il ne se cache quand il reste à la maison. C'est Germaine qui ramène tout l'argent de la semaine. Ce n'est pas contre raison. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais il l'aime, mais il s'aime. Et ce n'est pas un problème de savoir qui va porter la culotte ou bien les bottes. Et le seul drapeau qui flotte, c'est une tête d'oreiller. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais voici que sonne l'heure de traîner l'enfant qui pleure vers l'école au banc de bois. L'enfant de Germaine et Jules, sans y penser, articule dans les livres d'autrefois. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Tout recule, et plus tard le petit Jules aura des enfants aussi, qui derrière leur cartable dans l'école imperturbable épelleront ces niaiseries. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Oh ben non.
Vous êtes à l'écoute,
en direct,
voilà. Et c'est Extramuros, l'émission qui sort des murs, et l'émission de Radio Évasion.
Ah, j'aime bien quand tu dis ça, Extramuros, comme ça.
Extramuros,
ouais,
c'est bien, c'est notre ami Simon, que je remercie, qui gère la technique. On fera les remerciements tout à l'heure, mais j'en profite quand même pour le remercier, puisqu'il nous fait un travail remarquable. Du moins, je l'espère, on verra ensuite à la rediffusion. Donc, nous sommes en direct depuis la médiathèque Angela Duval. Cette émission s'inscrit dans le cadre de l'égalité filles-garçons. Et si on en parlait, une animation proposée du 17 au 24 mars par l'Astérie de Plougastel d'Aoulas.
Oui, c'était pas facile d'éviter le sujet et quels ont été localement, je veux dire, les effets de l'affaire Weinstein, du hashtag balance ton porc, le hashtag MeToo, etc., soit en politique ou dans les associations, mesdames. Un sujet délicat, évidemment, épineux. Gaëlle Vigouroux.
Ah, je m'y colle alors. L'affaire Weinstein, balance ton porc, bah, c'est un grand mouvement hein, international qui part aux États-Unis au départ et qui libère la parole des femmes. Alors, voilà.
On essaye de la libérer.
C'est-à-dire que les femmes ont décidé.
Lève la main, tout le monde lève la main. Alors,
femmes se sont emparées finalement d'un hashtag, hein, voilà. Pour libérer leur parole. Et elles se sont, voilà, emparées. C'est un mouvement qui n'est vraiment, enfin, à mon avis, pas contrôlable, c'est la libération. Bon, la libération était nécessaire. La libération de cette parole, elle est nécessaire.
C'est un mouvement, voilà, que vous l'avez dit, international, enfin voilà, tout le monde. Maintenant, justement, comment ça s'est passé dans votre vie tous les jours de militante ou professionnelle, justement? Est-ce qu'il y a eu des effets?
Ouais, je vais vous dire, la parole des femmes, on s'y attelle à la libérer tout le temps, quoi. C'est-à-dire, les femmes, elles n'ont pas attendu d'avoir ce moyen de com pour libérer la parole. Quand elles sont militantes ou qu'elles viennent dans des associations qui sont dédiées aux femmes, aux droits des femmes, elles y vont déjà, voilà. Ce que ça change, hein, c'est que, pour moi, enfin, qu'est-ce que ça change? Eh ben, ça change au final pas tant que ça de choses que ça. C'est-à-dire que il faut aller plus loin. C'est pas tout de libérer la parole. C'est maintenant que ça devienne un enjeu partagé par tous. C'est pas une histoire de femmes, c'est une histoire de tous. Est-ce que finalement, je crois que ça suffit pas, quoi. Voilà, c'est ce que je voudrais dire, c'est que ça met un moment l'éclairage sur cette libération nécessaire de la parole. C'est pas un tabou. Quand on sait qu'une femme sur 10 porte plainte pour agression sexuelle, mais que finalement ça doit être une femme sur 5. Que on sait aussi que quelque part, voilà, je veux dire, même c'est même plus grave que ça, c'est-à-dire que ça a même cristallisé quelque chose qui rend un peu négatif le féminisme, et c'est dommage. Vous avez vu par exemple ce qui s'est passé avec les propos qui étaient un peu maladroits de Caroline De Haas, elle a dit quelque chose sur l'État, en fait, était finalement, par le fait de pas agir sur assez sur les droits des femmes, finalement était responsable de crimes, et ça s'est très mal passé. Mais en même temps, tout de suite derrière, on a eu deux journalistes, un journaliste Apathy, Monsieur Apathy, et puis Dominique Besnéard, qui ont dit oui, cette dame-là, elle donne envie de la gifler. On est en plein contexte de violence faite aux femmes, et puis finalement, on va faire le procès du féminisme. Voilà, c'est compliqué d'être féministe en France aujourd'hui, c'est compliqué d'être féministe dans le monde, parce que le féminisme va porter cette espèce de lutte comme si les féministes étaient là pour finalement détruire les hommes. C'est faux, les féministes n'ont jamais cherché à détruire qui que ce soit. Elles ont juste cherché à ce que les femmes, la place des femmes...
Il y a beaucoup d'hommes féministes aussi.
Et il y a aussi beaucoup d'hommes féministes, donc on peut pas s'arrêter là. Voilà, moi j'avoue que le balance ton porc, j'ai pas trouvé ça très heureux, j'ai bien beaucoup préféré le MeToo, et puis ce qui est parti des États-Unis, qui n'était pas agressif en faveur des hommes. Voilà, moi ça m'a gêné. Maintenant, voilà, les choses, elles ont explosé. Les femmes, elles ont parlé pour beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? La défiance qu'il peut y avoir, ou la suspicion, je crois qu'on en est sorti. Et c'est déjà ça, parce que c'est pas forcément bien.
Pensez au débordement, Gaël Vigouroux, quand vous dites que le balance ton porc. On m'entend là, ouais, Simon, c'est bon, ouais. Oui, des débordements par rapport à ce balance ton porc, c'est-à-dire que ça dérape à un moment donné, c'est trop.
Alors non, c'est pas que c'est trop, c'est que à un moment donné, la vindicte publique ne peut pas remplacer en effet les tribunaux. Sauf qu'on sait très bien aussi qu'une femme ne va jamais dire publiquement, juste pour se faire mousser ou pour X autre raison, qu'elle a été violée alors qu'elle a pas été violée, quoi. C'est extrêmement rare les gens qui manipulent cette parole-là, parce qu'elle est déjà tellement difficile à sortir que c'est des langages de vérité. Pour autant, la vindicte qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où vous avez un déchaînement de violence pour X, Y raisons, du racisme, de la xénophobie, du sexisme, qui se déchaîne, il va falloir à un moment donné qu'on soit très conscient de ce qu'on fait, quoi. Voilà.
Je voudrais noter tout à l'heure la parole, docteur Sanquer, juste puisque en fait par rapport à ce qui nous intéresse justement dans cette question, c'est qu'en fait voilà, il y a une hyper médiatisation, en tout cas de ces hashtags, ce qui nous intéressait, c'est de savoir justement les effets en local. Et alors vous, Marion Clément, vous êtes aussi au contact des associations. Concrètement, est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est quelque chose qui agit?
Oui, forcément, on en parle. Il y a certaines associations qui ont eu beaucoup plus de contacts, des personnes, beaucoup plus de personnes qui les ont contactées, beaucoup plus de femmes qui les ont appelées. D'autres associations où on voit moins ce pic-là. J'ai pas encore les données force de l'ordre, parce qu'en effet, parfois on dit il y a aussi peut-être une augmentation du dépôt de plainte, ça on le voit pas encore en Finistère, faut que je regarde ça. Mais en tout cas, sur les associations, il y en a qui ont constaté une augmentation des appels. Donc évidemment, c'est un aspect positif, hein, si ça permet à certaines femmes de franchir ce pas-là et de contacter une association, c'est très bien. Et puis, pour revenir sur les mouvements internationaux, dire quand même que avant une libération de la parole, c'est aussi une libération de l'écoute, parce que les femmes, en fait, elles ont toujours parlé. Donc on les écoutait pas forcément. Et donc la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes insiste bien là-dessus, et c'est hyper important. C'est vraiment une libération de l'écoute. On écoute ces femmes-là qui ont toujours parlé. Et c'est vrai que la première écoute pour une femme victime de violence, elle est primordiale, en fait. Elle est hyper importante. C'est-à-dire que la première fois qu'une femme va confier à quelqu'un, à quelqu'une, qu'elle a subi des violences, si elle est mal écoutée, elle va peut-être plus jamais en reparler. Donc on sait très bien que cette première écoute, elle est primordiale. Il y a beaucoup d'associations, évidemment, qui travaillent là-dessus, hein, pour avoir cette première écoute la plus satisfaisante possible. Mais on sait aussi qu'une victime, elle peut se confier à un proche, à une proche. Et c'est là où c'est important d'écouter la victime. Et si on sait pas quoi faire, se dire, il y a peut-être une asso qui va pouvoir l'aider. Il y a peut-être quelqu'un, quelqu'une qui va pouvoir l'aider. Et vraiment, écouter, c'est essentiel.
Françoise Sanquer, vous êtes justement, si je puis dire, une professionnelle de l'écoute et de la libération de la parole. Qu'avez-vous pensé justement de ces campagnes
différente. Enfin, je suis d'accord avec tout ça. Mais moi, j'ai eu du...
Un peu plus près du micro, s'il vous plaît.
C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai fait deux rencontres sur ce sujet. Et curieusement, ce sont des hommes qui m'ont demandé de la faire. Et l'avant-dernière, c'était mercredi dernier,
sur la
différence entre séduction et harcèlement, sur les agressions sexuelles, etc. Et curieusement, il en est sorti particulièrement la dernière fois. Donc ils se sont exprimés. Ils sont pas obligatoirement des hommes féministes, justement, assez curieusement. Et ils se sont exprimés et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant ce qu'ils disaient. Hein, certains ont
que
dit.
Que disaient-ils ?
Ben justement, ils disaient qu'effectivement, ils ne pensaient pas qu'il y avait tellement de femmes, autant de femmes qui étaient harcelées, agressées, violées, violentées, enfin battues, etc., etc. Et ce qui est ressorti de là, c'est que ils étaient conscients que la plupart, que tous les agresseurs, tous, sont effectivement conscients qu'ils agressent. C'est pas du tout, comme certains le disent, je savais pas, mais c'est elle qui raconte des bêtises. Ils savent ce qu'ils font. Et ils le font sciemment. Ça a été comme un tonnerre dans un ciel gris. Parce que moi, je pensais quand même, bêtement, qu'il y avait des hommes qui étaient bêtes, qui étaient, je vais dire cons, enfin voilà, pas conscients quoi de ce qu'ils faisaient, je dirais plutôt couillons d'ailleurs, mais non, et il paraît qu'ils ont demandé entre eux, certains hommes, et qu'en fait tous les agresseurs sont parfaitement conscients qu'ils agressent. C'est pas du tout une erreur de leur part ou parce que elle est trop fragile, elle est trop ceci, trop cela, ils le savent. Alors ça, c'est j'ai été épatée.
Patrice ?
Je ne savais pas.
Gaëlle,
ça me terrifie, moi.
Oui, c'est terrifiant.
C'est terrifiant.
Et c'est terrifiant.
Terrifié aussi en même temps.
Bah oui, parce que pendant qu'on dit, voilà, on allait trop loin, cette parole, c'est pas un tribunal, etc., à côté de ça, on cache quelque part que, bah voilà, c'est combien de femmes par an qui meurent sous les coups de leur conjoint.
Il faut rappeler quand même qu'il y a une femme qui décède tous les 3 jours, hein, suite à des violences conjugales, et que 15% des femmes dans leur vie ont subi des violences sexuelles. Donc, c'est quand même des chiffres qui, en effet, peuvent faire peur, mais c'est des chiffres aussi qu'il faut pas hésiter à dire, parce que c'est important de savoir que, voilà, autour de nous, il y a forcément des personnes qui ont vécu ça, et c'est voilà comment on peut prendre en charge ces violences au mieux.
Vous rappelez justement à l'antenne les structures auxquelles les femmes peuvent s'adresser immédiatement.
Alors il faut pas oublier le numéro national 3919, du coup qui est un numéro gratuit et qui va permettre aux femmes d'être mises en relation avec des associations locales. Et puis après on a évidemment dans le département beaucoup d'autres associations, la plaquette est sur le site des services de l'État. Et je vais juste donner le numéro du CIDF aussi en local, 02 98 44 97 40.
39-19, un numéro facile à retenir. On glisse tout doucement, puisque les violences faites aux femmes, l'affaire Quentin actuellement, quel est votre avis, mesdames ? Qu'est-ce que vous ressentez ?
Et ça sera le mot de la fin. Alors, une question dans le public. Il nous reste 3 minutes, allez, 4-5 minutes.
Allez-y, madame. On vous entend, on va vous entendre en tout cas.
Voilà. Hop. On vous voit ici à la radio, on ne vous voit pas, comme on va moi. Vous entendre. Voilà.
Non, simplement, nous parlons beaucoup de l'égalité homme-femme et c'est en chemin, il y a des choses qui avancent et tout. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interroge, c'est qu'on a besoin de faire une journée des droits de la femme et on n'a pas besoin de faire une journée des droits de l'homme. Donc ça veut dire quand même qu'on est loin de ce qu'on devrait attendre, et puis on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour gagner cette égalité.
Merci.
On est loin, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas forcément envie de parler de Quentin, en fait. Parce que quand on parle de Quentin, on parle pas du reste, quoi. Et on n'avance pas, quoi. Donc peut-être parlons de Marie Trentignant. Non, mais c'est super dur d'avoir été fan de Noir Désir et que les choses s'écroulent comme ça. Voilà, il y a des choses quand même. C'est compliqué, hein. C'est ambivalent. Voilà, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il a été condamné. Il a purgé sa peine. Voilà, bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il a un droit à une vie derrière ou pas ? Oui, bah, la question, elle est super compliquée à traiter. Ouais, moi, je vois la, voilà, le, autant,
autant est-ce que bah voilà, il a tué quelqu'un quoi. Donc bah ça il faut savoir, et puis cette omerta qu'il y a autour de tout ça, on voit bien que quand il y a une violence, et là il y a eu un meurtre quoi quand même, hein, qui est peut-être accidentel au départ, je sais pas, mais en tout cas il y a quelqu'un qui est mort. Donc elle a perdu la vie, lui il est vivant, OK. Pour autant la vindicte qui tend à l'insulter, à le, ouais, comme des scènes, à lui cracher dessus dans la rue,
violence là, aussi là.
Une violence là qui manque un petit peu de recul. C'est un homme, voilà, on peut pas le lancer comme ça, la vindicte publique. Donc ça, c'est aussi notre société qui est quand même extrêmement violente. Quand on parle d'égalité aujourd'hui, on cristallise énormément de violence. Quand on parle d'égalité, c'est comme on dit, il y a un, on doit se comporter comme ça, et tous ceux qui se comportent pas comme ça sont déviants. Là, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Voilà. Donc moi, la vie, il est compliqué. J'ai pas envie de le jeter à la meute, mais en même temps, il y a aussi une sobriété qu'on doit avoir.
Peut-être qu'on aurait aimé qu'il ne monte plus sur scène, simplement. Voilà.
Ouais, on aura que votre point de vue sur cette question, voilà, Gaël Vigouroux. Avant de nous quitter, peut-être. Marion Clément, les prochains événements, une actualité à citer.
Dire que justement, comme l'a dit madame dans le public, il y a la Journée internationale des droits des femmes, donc il y a eu beaucoup d'événements en mars.
Oui,
on en a encore la semaine prochaine avec la mission locale. On fait une action pour faire en sorte que les femmes aillent sur les métiers techniques. Mais au-delà de ce 8 mars, on met des actions toute l'année sur l'égalité femmes-hommes, et c'est important. Et plus il y aura d'actions, et mieux ce sera, et au-delà du mois de mars.
Et rappelez aussi que le docteur François Sancar organise régulièrement des
cafés. La prochaine rencontre. Rapidement.
La prochaine, c'est mercredi prochain. C'est sur
l'endroit.
C'est toujours au Fuxia actuellement.
D'accord.
À Brest.
Au port de
Comines. Voilà. Et c'est de 18h30 jusqu'à 20h. Donc tout le monde prend la parole. Enfin, tous ceux qui veulent à propos du sujet. La prochaine fois, c'est la peur de l'engagement. Il y a beaucoup de gens maintenant qui osent plus s'engager. Donc alors je ne sais pas dans quoi. Justement, on va en discuter. Enfin, moi, j'aime bien jouer avec les mots. Et dans fin avril, ça sera donc sur la prostitution.
D'accord. Votre mot de la fin, Gaël Vigouroux.
Encore beaucoup de chemin à faire. Une convergence des pouvoirs publics, du secteur associatif. Voilà, c'est important. On continue toute l'année et pas uniquement le 8 mars. Mais encore beaucoup, beaucoup de chemin et des budgets et de l'argent dans les droits des femmes pour permettre de lutter efficacement contre les inégalités.
Arnaud Clugery.
Pour moi, le mot de la fin, c'est de donner rendez-vous à tous les gens du Finistère et d'ailleurs au prochain tournoi international de foot,
bien sûr,
qui met en œuvre une compétition masculine et une compétition
et
féminine, puisqu'il y aura des U13 de...
La date.
C'est le 26 et 27 mai ou le 27-28, j'ai un petit doute. Non, c'est le week-end après la Pentecôte, exceptionnellement cette année.
Je vous remercie tous les invités, donc docteur François Sancar, Gaëlle Vigouroux, conseillère régionale, Marion Clément, c'est trop long votre... Marion Clément, donc déléguée, j'ai plus mes fiches, vous êtes déléguée à égalité homme-femme au sein de la DDCS. Agnès Vuillader, vous êtes capitaine de l'équipe de Régional 2 de l'AS d'Irinon, et Arnaud Clugery, président du club de l'AS d'Irinon. Merci Patrice, merci Cyril Russe de l'Astérie qui était là tout à l'heure, qui est à côté, qui a permis cette émission. Merci la médiathèque Angela Duval et le staff de Radio Évasion. Merci à Fred qui est derrière et qui nous a permis que ça soit diffusé, et puis merci à toi Simon. À bientôt et à rendez-vous, toi, Patrice.
Oui, lundi en direct avec Michael Baudu pour son dernier documentaire Open the Border sur des réfugiés kurdes qui ont rejoint l'Europe. C'est un rendez-vous entre 10h et 11h. Voilà, ne le ratez
pas. L'instant culturel Radio Évasion. Salut.
Salut.